J'espérais terminer la dernière fois, mais comme vous avez vu, même en courant, c'était pas possible. Donc André m'a demandé de terminer cette semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y en a peut-être beaucoup. Je vais juste rapidement résumer. Néhémie, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, le peuple avait été déporté à Babylone. Il se retrouve esclave, en fait, hein, d'un autre peuple. Le pays était déserté. On avait laissé les invalides, les vieillards, etc., quelques personnes. C'est parfaitement historique. Je veux dire, la Bible n'est pas un livre de contes de fées. On retrouve les repères historiques. Même si c'est pas un livre d'histoire, on retrouve des repères historiques très clairs. Et le roi de Perse avait finalement laissé partir Néhémie. Quand Néhémie avait appris, il était chanson du roi, donc très proche du roi. Et quand il avait appris que les murailles de Jérusalem étaient toujours en ruine, alors qu'un premier lot de déportés était déjà parti 90 ans avant, il était désespéré. Et il a commencé à jeûner, prier, et il a demandé au roi. Le roi l'a autorisé à rentrer, et son but était clair, reconstruire les murailles. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Donc, on a passé en revue un peu tout le retour de Néhémie, depuis le jour où il est rentré, où il a commencé à faire le diagnostic. On va passer ça en revue tout à l'heure, parce qu'en fait, on fait une petite révision aujourd'hui pour voir les points importants. Mais avant, on va terminer avec le chapitre 13 de Néhémie, qui est le dernier chapitre, qui nous raconte une histoire qui m'avait pas forcément frappée la première fois que je l'ai lue, parce qu'on se dit un petit peu « et alors ?». Et puis, quand on réfléchit, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave que ça en avait l'air. Néhémie est retourné après 12 ans, une fois que la muraille a été reconstruite, on en était là, il est retourné voir le roi de Perse, à Suse, et quand il rentre, on ne sait pas combien de mois il a été absent, mais quand il rentre, il découvre quelque chose qui le choque. Et là, on va lire ce petit passage. Avant cela, le prêtre Eliashib, qui était chargé des salles de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobija, alors on se rappelle que Tobija, je l'avais appelé la cinquième colonne, il se disait chrétien, son nom voulait dire Dieu est bon. Enfin, il se disait chrétien, il se disait juif, son nom voulait dire Dieu est bon. Et en fait, il était complètement ami avec les ennemis d'Israël. Il avait envoyé des lettres de menaces, des lettres d'injures. Ils avaient vraiment fait tout ce qu'il fallait pour décourager Néhémie. Alors, c'est chapitre 13, versets 4 et 5, on en était là. Il était parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande salle où se trouvaient auparavant les offrandes végétales, l'encens, retenez bien ce mot-là, les ustensiles, la dîme du blé, du vin et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, je demandais au roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une salle pour Tobija dans les cours de la maison de Dieu. Je le pris très mal, je jetai hors de la salle tous les objets qui appartenaient à Tobija, et je dis de purifier les salles, et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes végétales et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service avaient fui chacun vers son champ. Je fis des reproches aux magistrats, et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les maisons la dîme du blé, du vin, de l'huile. Je confiai à la surveillance des magasins à Shelemia le prêtre, à Tsadok le scribe, Pedaya l'un des Lévites, et pour les assister, Anan fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être dignes de confiance. On va parler un peu là-dessus. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité pour la maison de mon Dieu et pour ses observances. Alors évidemment, quand on lit le texte comme ça, on voit pas trop où est-ce qu'il va. Donc on va s'y attarder un tout petit peu. C'est une histoire marquante parce que Tobija était l'ami des ennemis d'Israël. Il avait collectionné les moqueries, les méchancetés en tout genre, les calomnies, les menaces, les mensonges. C'était vraiment, c'est pour ça que je l'appelais la cinquième colonne. Hein. Ceux qui ont vu des films de guerre savent ce que c'est que la cinquième colonne. Hein. Les Allemands avaient infiltré toutes sortes de postes importants en France. C'était avant la Première Guerre mondiale, je crois, hein, déjà, pour bien connaître le pays et avoir des appuis au moment de l'invasion. c'était pas bête. Et vraiment, Tobija, c'était ça, c'était la cinquième colonne. Il avait l'air juif, il avait un non-juif, il avait des enfants qui avaient des non-juifs, il avait marié un de ses fils avec la fille du grand prêtre, lui, il s'était bien arrangé, mais il avait aussi un autre qui était marié avec la fille de l'ennemi du peuple. Donc, il jouait sur les deux tableaux, c'était un agent double, c'était vraiment quelqu'un de dangereux pour le pays. Il faisait collusion avec les ennemis du peuple et ennemis de Néhémie du coup. Et vous vous souvenez que c'était ceux qui, le verset dit, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour le bien des Israélites. Ça nous est dit tout au début du livre de Néhémie, Néhémie 2:10. Alors, après 12 ans, Néhémie est retourné auprès du roi de Perse et quand il revient à Jérusalem, il trouve que le grand prêtre, donc celui qui était responsable du temple et des affectations des salles du temple, donc lié à Tobija par des liens familiaux, avait mis à sa disposition dans le temple un espace qui était en fait destiné aux offrandes. Et parmi ces offrandes, j'ai noté une très importante pour le culte juif de l'époque, l'encens. L'encens, vous savez, c'est un symbole très fort dans la religion juive. Il est utilisé maintenant pour parfumer les maisons et tout ça, mais à l'époque, c'était consacré pour l'adoration à Dieu. Rappelez-vous les rois mages qui vont apporter à Jésus de l'or parce qu'il était roi, de l'encens parce qu'il était Dieu et de la myrrhe parce que ça annonçait sa mort. Donc c'est un symbole très très fort dans la Bible que l'encens. Symbole de l'adoration à Dieu. Et curieusement, c'est cet espace-là qu'on va laisser à Tobija. Et vous savez ce que la Bible rapporte, surtout dans le livre de Néhémie, les choses sont très condensées, il n'y a pas de délayage, donc tout a un sens, tout est très riche. Donc voilà qu'on accorde à l'ennemi d'Israël, en fait, un espace qui est destiné aux offrandes, à l'encens, aux ustensiles, à la dîme, donc le dixième des récoltes, hein, vin, blé, huile. Alors pourquoi est-ce qu'on apportait les dîmes dans le temple, le dixième des récoltes? Ben, c'était pas compliqué, c'est que quand au temps de Josué, quand le peuple, le pays de Canaan a été distribué aux 12 tribus, il y a une tribu qui n'avait pas de territoire. C'était les Lévites, pourquoi? C'était les prêtres. Et ils devaient se consacrer au travail de prêtrise, hein, soit dans le temple quand il a été fait, soit dans le tabernacle avant. Et ben, il fallait qu'ils vivent. Ils n'avaient pas le temps de cultiver les champs. Aujourd'hui, on peut travailler chez soi sur son ordinateur. À cette époque, travailler, c'était plus ou moins l'agriculture, hein. Un petit peu d'artisanat, mais c'était à peu près tout. Et ça demandait du temps. Et donc, pour qu'ils aient le temps pour Dieu, on leur donnait la nourriture. Le dixième était prélevé sur les 11 autres tribus pour qu'ils aient suffisamment, c'est clair. Donc, c'était indispensable pour que le temple fonctionne. Et c'était là qu'on le stockait. C'était prélevé, donc il est écrit, pour les besoins des prêtres, des lévites, des chantres, l'équipe de louanges de l'époque, qui était à plein temps, et des portiers. Portiers, c'était aussi les gardiens du temple. Néhémie a utilisé aussi des portiers pour garder la ville. Et alors, on va se dire, est-ce que c'est si grave? Hein? Mais si. Parce que il apprend, quelques temps après, que toutes les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, évidemment, et que Lévites, chantres, etc., chargés du service, avaient fui chacun dans son champ. Ben, ils étaient retournés travailler parce qu'il fallait vivre et faire vivre leur famille. Ils n'étaient pas célibataires, les prêtres, hein, les prêtres juifs. Et donc, il fallait faire vivre les familles. Donc, ils étaient retournés chacun dans son champ, ce qui est logique. Comme disait Voltaire, cultivons notre jardin. Ils n'avaient pas d'autre solution. Et on a vu que Tobija n'avait pas ce qu'on appelle l'ADN du peuple de Dieu. Il en avait les apparences, mais il n'avait pas l'ADN. Il n'avait pas les valeurs. Il n'avait pas sa place dans le temple et de un. On n'avait pas retrouvé ses lettres, sa généalogie, prouvant qu'il était vraiment juif. Vous savez, à l'époque, ils avaient fait ce travail quelque temps avant, et lui n'avait rien pu prouver, évidemment. Il était franchement mélangé. Et vous savez que rien d'impur ne devait rentrer dans le temple, parce que le temple était une image faible, mais une image de la pureté, de la sainteté de Dieu. Donc on s'arrangeait pour que rien d'impur ne rentre dans le temple. Et impur, ça veut dire quoi? Ça veut dire mélanger. Souvent, on a un petit peu de mal avec ce mot pur et impur, parce que ça fait un peu rigoler les gens maintenant. Impur, impur, on pense aux lépreux, enfin bon. Impur, ça veut dire mélanger. Quand vous buvez votre vin pur, ça veut dire que vous le mélangez pas avec de l'eau, par exemple. Moi, je fais ça. Et c'est très bon. Et donc là, lui, il était impur dans ce sens qu'il était franchement mélangé. On savait, même sa généalogie n'était pas claire. Ses sentiments encore moins. Et ses actions, alors c'était l'horreur. Mais n'empêche qu'on lui laissait la place dans le temple. Donc déjà, ça n'allait pas. Rien d'impur ne devait rentrer dans le temple. Il était lié à des païens, ennemis du peuple. La Bible nous dit aussi qu'il avait envoyé des lettres pour faire peur à Néhémie. Et d'ailleurs, c'était lui qui avait fait cette remarque quand Néhémie a commencé à reconstruire. « Oh ! Si un renard s'élance sur ce mur, tout va s'écrouler. Il restera pas pierre sur pierre. » Vous voyez, vraiment, là, c'est clair. Hein. Menaces, calomnies, ruses, mensonges. Ils avaient même utilisé des faux prophètes. Et c'est cet homme-là qu'on va installer dans le temple. Enfin, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, le grand prêtre? Il était lié par des liens familiaux. Ça, c'est toujours dangereux. Et qu'est-ce qui réunissait Tobija et Sanballat, donc les ennemis? La jalousie, le désir de contrôler, la peur de voir leur pouvoir limité par Néhémie et la reconstruction de Jérusalem. En fait, je vous avais bien expliqué déjà que tous les ennemis d'Israël, en fait, étaient tout autour. Et Sanballat était au nord, Tobija, je crois, était à l'est. Après, il y avait Gershem, l'arabe. Donc, ils entouraient le pays et ils comptaient bien le contrôler. Et avec des murailles reconstruites, avec une vie qui revient dans la ville, le commerce qui va revenir, ils sentaient bien qu'ils allaient perdre ce contrôle. Et il a profité de l'absence de Néhémie pour s'installer dans le temple. Il prend donc la place des ustensiles, de l'encens, des offrandes. Et ça, c'est quand même un symbole très très lourd. Alors quand on le lit comme ça, ça paraît pas, mais c'est rudement lourd. Il prend la place de ce qui sert à l'adoration. Il prend l'espace réservé à ce qu'il faut pour l'adoration. Il va ainsi priver les chantres de leurs ressources, donc toute l'équipe de louange et d'adoration n'a plus de ressources. Et puis en plus, on peut même plus stocker l'encens, parce que lui, il prend l'espace. Donc l'exercice du ministère d'adoration et de louange, terminé. Donc c'était pas rien en fait qu'il ait pris cette place-là. Hein. Quand on le lit comme ça, oh bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Et je voudrais faire une petite digression à propos de l'adoration, parce que le diable s'attaque toujours à la louange et à l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il était là autrefois, avant sa chute, hein, pour adorer Dieu. Et son grand plaisir, c'est soit de la détourner, la priver de ses ressources, pas seulement matérielles, mais aussi humaines, ou bien diriger l'attention vers les ressources quand elles sont abondantes, plutôt que sur celui qu'on adore. Et on va retrouver ce problème. Combien? 25 siècles après, on en est toujours là. Ça n'a guère changé. La Bible reste très moderne. Prendre l'espace de l'adoration, voler l'adoration qui était réservée à Dieu, empêcher le stockage de l'encens, voyez ce que ça veut dire. Et je peux pas m'empêcher de penser à ce chant de Matt Redman, hein, et à sa démarche qui a été justement de revenir à l'adoration de Dieu. De laisser tomber un petit peu tout le décorum, tout ce qui détourne l'attention de l'adoration. Il a fait une démarche extraordinaire, Matt Redman. Si vous connaissez pas, prenez certains de ses CD. Comment c'est le titre du chant? Le chant terminé, voilà. Je reviens au cœur de la louange. Revenir au cœur de l'adoration. Colin Urquhart a fait la même démarche, il nous l'a raconté, et beaucoup d'autres. Et je me suis posé des questions. Il faut se les poser de temps en temps, parce que vous savez, on devient vite religieux. On va au culte, on chante, on écoute, on part. Pourquoi est-ce qu'il y a un temps de louange dans les églises? Qui est-ce qu'on loue? Qui est-ce qu'on adore? Je me suis posé des questions. Qui est-ce qu'on célèbre? Qui est-ce qu'on exalte? À qui est-ce qu'on rend un culte? C'est quoi rendre un culte? Et à qui est-ce qu'on rend un culte? Et bien sûr, je suis d'accord avec Matt Redman et Colin Urquhart quand ils disent que la louange doit pas être centrée sur nous, nos sentiments, nos ressentis, nos besoins, nos misères, nos soucis. Quand on vient pour adorer Dieu, on adore Dieu. Et c'est pas facile. Parce que ça nous oblige à se décentrer de nous-mêmes. Et c'est pour ça que on résume ça en disant tu es saint. C'est-à-dire tu es complètement différent de moi. Complètement. Tu es saint. Tu es grand, tu es puissant, tu es, tu es. Je viens adorer Dieu, je viens pas m'adorer moi. Du coup, tous les chants, comme disait Colin Urquhart, hein, qui sont centrés sur « Je sens, je crois, je pense, j'ai... » Non. Quand on vient adorer, c'est pas... Oh, c'est différent quand on fait un concert ou qu'on chante chez soi des petits chants qui chrétiens. C'est génial, c'est très bon, il y a rien de mal à ça. Mais quand on vient adorer le Seigneur, on vient l'adorer. Et essayons de pas mélanger les genres. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. La limite parfois est très très ténue, hein, entre j'adore Dieu ou je me mets au centre de mon chant. Tobija était cet homme double, impur, mélangé, qui prend la place de l'encens, qui prive les chantres de leurs ressources. Il est complètement dans la stratégie de l'ennemi. Alors là, je voudrais vous dire quelque chose qui m'est arrivé à moi quand j'étais au début. On avait l'église, je me disais oh c'est pas grave si on loupe un petit bout de la louange. L'essentiel, c'est faut que je m'arrange pour être là pour la prédication. J'avais les enfants tout petits, c'était pas simple d'être toujours disponible, etc. L'essentiel, c'est de pas louper la prédication. Puis un jour, quelqu'un a prêché là-dessus. Si Marie-France était là, elle jubilerait. Parce qu'elle sait ce que c'est que la louange et l'adoration. Et quelqu'un a expliqué qu'en fait, la louange, c'est le seul moment du culte où on vient adorer notre Dieu. Le reste du temps, on reçoit. La Sainte Cène, la communion fraternelle, la prédication, etc. Le temps de louange, c'est celui où nous, on donne à Dieu. Quelque chose dont il a besoin, imaginez. Quelque chose qu'il a demandé. Rendez à l'Éternel l'honneur qui lui est dû. Psaume 29, psaume 96. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, etc. C'est pas mon âme bénit, mais mon âme bénit l'Éternel. Donc c'est demander. Et puis on se dit, la réponse à ces versets-là, c'est... Bon, c'est pas grave si je loupe un bout de la louange. L'essentiel, c'est que je loupe pas le message. Aïe, aïe, aïe. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, oh misère, c'est le seul moment où on peut vraiment lui donner quelque chose. Et on a été créé pour ça. Adorer Dieu. Et si on n'adore pas Dieu, on adore autre chose. Parce qu'il y a un besoin d'adoration chez l'homme. Alors ça va être des idoles de la musique, du rock, de n'importe quoi, ça va être des artistes de cinéma, ça va être n'importe quoi, ça va être mon argent, ça va être ma carrière. Mais il faut qu'on adore quelque chose. L'homme est créé pour ça. Et du coup, on prive Dieu de la seule chose qu'on peut vraiment lui donner. Alors je vous invite à réfléchir là-dessus, que moi je sais que j'y ai réfléchi. Et parfois, si je m'attarde à parler, moi, bien sûr, j'ai de bonnes raisons. La femme du pasteur, elle prie avec les gens, donc elle peut louper un bout de la louange. Et parfois, je me dis, non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est la seule chose que je peux donner à Dieu. Et la donner en communauté, comme ça, et toute l'église, c'est quand même génial. Et lui dire, Seigneur, tu es saint, tu es grand, tu es puissant, ça fait, sur le coup, c'est dur à dire. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas facile, quelquefois, de rentrer en ce temps d'adoration et de dire, Seigneur, tu es merveilleux, etc. Ça nous descend complètement de nous-mêmes et c'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a fait, ah, on se sent beaucoup mieux. Parce qu'on a été créé pour ça. Comme je dis toujours, les lave-linges sont faits pour laver du linge, les lave-vaisselle pour la vaisselle. Essayez de faire l'inverse, ça sera problématique. Et c'est exactement ça. On a été créé pour adorer Dieu. Et si on le fait pas, ça sera problématique. J'en suis sûre. Voilà ce que j'ai appris. Et je sais pas si je le mets toujours en pratique, mais je me sens vraiment coupable quand je le mets pas en pratique. Je me dis, oh, j'aurais pu donner à Dieu ce temps et je l'ai pas fait. Donc, l'ennemi cherche toujours à priver, à nous empêcher de louer, à priver les ministères de leurs ressources ou aussi à les disperser. Et je parle pas seulement des ressources financières, l'énergie, l'aide, l'encouragement. L'encouragement pour les équipes de louange, vous savez, c'est important, hein, de leur dire c'était bien ce matin. Ça a peut-être été un peu difficile, mais bon, il s'agit pas de leur faire enfler les chevilles, mais de les encourager, simplement, leur dire qu'on prie pour eux et que ils font tout ce qu'ils peuvent pour ce travail, que le Seigneur les aide. Donc voilà notre Tobija qui occupe l'espace réservé à la dîme, les gens n'apportent plus rien, ils découragent donc par tous les moyens. Et vous savez, c'est un petit peu la même chose encore aujourd'hui, tous ces scandales religieux qui font que les gens ne veulent plus donner d'argent aux églises. Et on trouve des églises qui ont du mal à trouver des locaux, qui ont du mal à s'en sortir. Et puis, on a des accidents, comme il y a eu avec cette église haïtienne. On a des morts, on a des soucis, parce qu'on prend n'importe quel local. Parce que les gens se méfient. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des Tobija qui ont occupé le lieu des ressources, qui ont détourné les ressources. Et ça, ça fait du mal. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Donc, Néhémie va trouver la solution. Il va instaurer des gens de bonne réputation pour surveiller ses magasins. Il va vider ses magasins de toutes les affaires de Tobija. Ça aurait pu sembler un geste de bonne volonté de la part du grand prêtre, mais il a fait un gros compromis, lourd de conséquences. Je parlais de la dispersion des ministères ou l'avortement des ministères. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël était en Égypte, on lui a donné un surcroît de travail pour pas qu'il aille adorer Dieu dans le désert. Vous vous rappelez? Ils ont dit, on va aller adorer Dieu. Oh, alors on a doublé leur charge. Et je pense que souvent le diable, c'est ce qu'il fait aussi avec les frères et sœurs de l'Église. Au moment où ils s'engagent dans des activités, où ils commencent à vouloir servir le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Au travail, leur charge est doublée. Ils ont une promotion, merci Seigneur, mais ils ont le double de travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les promotions. Mais il faut être attentif. Il faut être attentif à ça. Le diable cherche toujours à nous détourner de notre ministère, de notre travail et surtout de l'adoration qui lui est due. Et puis priver petit à petit l'Église des ressources nécessaires au service de Dieu en privant nous et l'Église locale, parce qu'on est un corps en fait. Alors j'ai pensé aussi que dans notre vie personnelle, c'est bon de s'examiner soi-même et de se dire, moi je me suis posé la question, qui ou quoi prend la place de l'adoration à Dieu dans ma vie? On répond chacun pour soi. Qui ou quoi prive ma vie spirituelle de ses ressources, l'occupe l'espace? Qui ou quoi fait de moi Marthe au lieu de Marie? Vous savez, j'ai réfléchi cette semaine, mais Marthe, elle avait pas besoin de faire tout ce boulot. C'était une époque où tout le monde avait des serviteurs et des servantes. Et s'ils recevaient Jésus régulièrement avec toute sa troupe, c'est qu'ils n'étaient pas complètement pauvres. Et il y a une autre chose. J'ai remarqué aussi, parce que je suis en ce moment dans Luc, j'ai remarqué que Jésus était suivi par un certain nombre de femmes de qualité, dont la femme de l'intendant d'Hérode, qui faisait un petit groupe et qui assurait l'intendance pour Jésus. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait la femme de l'intendant d'Hérode, et ils étaient tout un groupe. Hein? Donc ils assuraient l'intendance. Pourquoi est-ce que Marthe tenait absolument à faire le repas pour Jésus? Elle voulait lui faire plaisir. Et combien de fois est-ce que chacun de nous, on veut faire plaisir à Dieu en faisant des choses, puis on oublie le temps d'adoration? Enfin, moi, je sais que ça m'arrive. Je sais que vous n'avez pas ce problème. C'est magnifique. Et combien de fois on fait Marthe au lieu de faire Marie, alors que on n'est pas obligé de faire Marthe, peut-être. Oh, bien sûr, je veux bien croire qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir, parce qu'on se dit, pourquoi Jésus, il a été un petit peu sévère avec Marthe, hein? Oh, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites, Marie a choisi la meilleure part. Et moi, je me souviens m'être souvent dit, oh, tiens, tu ne te rends pas compte, il fallait donner à manger à 13, 14 personnes, plus peut-être des gens qui étaient autour, il fallait quand même qu'elle fasse son boulot, elle n'avait pas de mixeur, elle n'avait pas de tout ce qu'il faut, hein. Rien que faire la pâte à pain, c'est un sacré boulot. Et puis, quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, mais non, elle était certainement pas obligée, mais elle voulait faire plaisir à Dieu. Elle voulait faire plaisir à Jésus. Et combien de fois on veut lui faire plaisir avec ce qu'on fait au lieu de lui faire plaisir avec notre adoration? Enfin, vous voyez, c'est des choses qui tournent dans ma tête à moi, pour moi-même, et je vous les livre comme ça. Je pense que ça peut nous parler. Et chacun de nous, on est appelé à un ministère, un service pour le Seigneur. Faut pas croire que c'est réservé aux pasteurs. Chacun a un ministère, chacun a un appel. Et on est tous appelés à être quoi? Ambassadeurs de Christ. Vous savez, dans la société, hein, être ambassadeur, c'est quelque chose. Et on est ambassadeur, bon, l'ambassadeur de France, c'est quelqu'un en général dans les pays étrangers. Et nous, on est ambassadeur du roi des rois. On est quelqu'un d'important. Mais est-ce qu'on fait notre travail d'ambassadeur? Dans notre famille d'abord. Dans notre famille d'abord. Est-ce qu'on est ambassadeur des valeurs de Christ? Dans notre entourage, dans notre église, au travail? Vous savez, j'ai pensé à autre chose à propos des ministères. J'ai pensé aux petites grand-mères, on le devient, hein, mais qui sont bloquées chez elles, faibles, fatiguées. Il y en a, hein. Et moi, j'en entends beaucoup. Je pense à la maman du maire de mon village qui est morte à 104 ans et qui n'arrêtait pas de dire « Je ne sers plus à rien. Je devrais mourir. Ça sert à quoi que je sois en vie ?» Et à chaque fois, je me disais « Mais misère, quel dommage qu'elle n'est pas chrétienne. » Vous imaginez ce que un grand-père ou une grand-mère chrétienne, même bloquée chez lui ou chez elle, peuvent donner de prières, de conseils, de bonté, de sagesse, de temps d'écoute. Waouh ! Quel ministère ! On n'en a pas trop des gens comme ça. Vous imaginez ? Et je me dis, bon, quand je serai bien bien vieille, si je peux pas bouger, je peux encore faire tout ça ! Je serai hyper utile ! Espérons-le. Donc, ça fait réfléchir. On a tous un ministère. Mais est-ce qu'on veut l'exercer ou est-ce qu'on cherche à exercer celui du voisin ? Ça, c'est dommage. Dieu sait qu'on a besoin de travailler pour vivre. Mais, vous savez, on n'a jamais vécu avec autant de loisirs, autant de temps libre. Et je trouve que c'est merveilleux de voir autant de chrétiens qui passent du temps le dimanche matin. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Et pourquoi ? Parce qu'on a plus de temps libre. Au moment du réveil du Pays de Galles, ils travaillaient, je sais plus, 12, 13 heures, 14 heures par jour, dans les mines, 72 heures par semaine. Et ils trouvaient le temps pour prier, pour déclencher un réveil qui a arrosé toute la France aussi d'ailleurs, la Suisse, le monde, par la prière, par la consécration à Dieu. Il y a quelque chose là hein, qui doit nous faire réfléchir. Notre temps. Qu'est-ce qui remplit l'espace de notre temps ? Est-ce que c'est pas des Tobija ? Il faut se poser la question. Alors la solution de Néhémie, bah, ça va être la bonne. Il va nettoyer courageusement le temple de tout ce qui empêche l'adoration et le service de Dieu. Et il va remettre l'encens, il va remettre les dîmes, il va faire revenir les dîmes, il va mettre des gens fiables à la gestion des magasins du temple. Et on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qui empêche l'adoration et le service de Dieu ? J'ai oublié de le dire. Est-ce que ce sont mes blessures ? Ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Mes blessures. Hein, il y a quelquefois des gens qui disent « Oh, c'est pas grave quand on est chrétien. » Oh, les blessures, elles sont toujours là. Si elles n'ont pas été guéries par le Seigneur, il faut y travailler. Il faut chercher la guérison auprès du Seigneur. Et c'est d'une façon de vider les affaires de Tobija. Les blessures, c'est aussi toutes ces affaires de Tobija qui remplissent les magasins. Au lieu d'avoir des bonnes choses, on a encore nos blessures qui suppurent. La guérison, ça va chasser ces blessures. Est-ce que ce sont des compromis auxquels il faut mettre fin ou simplement mon égocentrisme ? Il suffit de demander pardon et puis de changer de vie. Ça vaut le coup de se poser la question. Néhémie est radical. Tout le monde dehors. Bon, ça, c'est vraiment pas politiquement correct. Hein. Mais ça va marcher. Tout va refonctionner. Vous savez, c'était juste ça qui empêchait le fonctionnement. C'était pas grand-chose. Hein. Un petit malin qui prenait l'espace. Et tout plus, rien ne pouvait plus fonctionner dans le temple. Est-ce que c'est pareil parfois dans nos vies ? Alors, une dernière question sur Néhémie. Qu'est-ce qui a permis à Néhémie de tenir tout ce temps-là ? Je me suis posé la question. Je vous l'ai présenté presque comme quelqu'un de parfait. Hein. Il résistait à tout, les moqueries, il répondait pas, il était ferme. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit sur Néhémie ? Mais qu'est-ce qui lui a permis de tenir bon comme ça ? Je vais vous dire. J'ai bien regardé, j'ai relu tout Néhémie en reprenant toutes ses prières. Et on s'aperçoit que Néhémie avait une relation avec Dieu extraordinaire. Avant n'importe quoi d'autre dans sa vie, c'était moi et mon Dieu. Mon Dieu et moi. Et j'ai vérifié, apparemment dans l'hébreu, c'est bien. Parce que je me dis, oh, est-ce que c'est pas une traduction, mon Dieu ? Non, non, c'était mon Elohim. Vraiment mon Dieu. C'était vraiment moi et mon Dieu. C'est rare dans la Bible qu'on voit ça à ce point-là. Mon Dieu et moi et mon Dieu. Avant n'importe quoi, c'était ça qui comptait. Et vous savez, on nous l'a rappelé, nous, à la pastorale, avant notre ministère, avant n'importe quoi, même si on fait des grandes choses pour Dieu, ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. C'est le numéro un. C'est la chose à laquelle on doit veiller. En un mot, c'est ma communion, ma relation avec Dieu, quoi qu'il advienne. Et après, je peux répondre à l'appel de Dieu. Mais si ma relation avec Dieu n'est pas nette, c'est pas la peine de continuer. Il faut d'abord remettre ça en place. Et après, le reste suivra. On peut pas reconstruire avec toutes les oppositions qu'on a si on n'a pas cette relation avec Dieu. Et là, on peut se réjouir de faire la volonté de Dieu parce que c'est la joie, comme on l'a dit la semaine dernière, la joie du Seigneur qui est notre force. Et je prie qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Quel que soit notre niveau d'engagement dans l'église ou à l'extérieur, quel que soit notre ministère, numéro un, ma relation avec Dieu. mon service sans répondre à son appel. Et vous savez, quand je regarde ce qu'on appelle les grands ministères, c'est-à-dire les gens célèbres, ceux qui tiennent la route, ceux qui nous apportent le plus, je vois bien que c'est ceux qui ont vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est irremplaçable. C'est ça qui a permis à Néhémie de tenir. Après, numéro 2, il y aura son service en réponse à l'appel de Dieu. C'est parce que Néhémie a respecté cet ordre des choses. Alors, j'avais fait un tout petit résumé, il est long, mais ça résume tout le livre de Néhémie pour montrer à quel point c'est sa relation avec Dieu qui a tout déterminé. Déjà, tout au début, quand il demande des nouvelles de Jérusalem et des Juifs, ça ne le concernait pas personnellement, mais c'était le peuple de Dieu, la ville que Dieu avait choisie. Il se sent touché, il va pleurer, prendre le deuil, et là, il prie et jeûne. Vous voyez, c'est pas son intelligence qui travaille, c'est il prie, il jeûne. Aucune raison humaine de prendre ça à cœur. Franchement, il avait aucune raison humaine de prendre ça à cœur. Ça faisait des années que les gens étaient rentrés, ça faisait 190 ans, 150 ans que ses arrière-arrière-grands-parents étaient venus en Babylone. Il avait perdu le contact, normalement, officiellement. Mais il va se repentir pour ses ancêtres, il va rappeler les promesses de Dieu, vous voyez, toujours avec Dieu, il va prier pour réussir sa mission. Il risque de déplaire au roi, ça fait rien, il s'attend à Dieu, il prie. Ensuite, il prie pour savoir quoi répondre au roi quand le roi le parle. Vous voyez cette interaction, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, quand il a du succès, il dit, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. À chaque fois, il n'a pas dit, parce que je suis le plus beau, le plus fort, car la bonne main de Dieu était sur moi. Quand c'est dès l'arrivée, il voit une grosse opposition, avec Sambala et Tobija et les autres, aucun commentaire personnel. Il se sent pas concerné personnellement. Il est là pour le bien des Israélites. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le ministère. Quand on a des oppositions, si on a été appelé par Dieu, et si notre relation avec Dieu est numéro un, bien sûr, je dis pas que c'est drôle, mais on le vit pas de la même manière. On n'est pas concerné personnellement. On est ambassadeur de Christ. C'est le Seigneur qui est concerné. On ne fait que ce qu'il nous demande de faire. Et ça joue énormément. Quand il fait le tour des murailles, il évalue les dégâts. On n'a aucune mention de ce qu'il pense, aucun mot de découragement. Il s'associe à la honte du peuple et il va les encourager en disant « La bonne main de Dieu était sur moi ». Voyez. Et puis on peut continuer comme ça, j'en ai fait 3 pages. Mais à chaque fois, faites ce travail, vous allez voir, c'est toujours « Mon Dieu et moi, moi et mon Dieu ». Il est opposé, il est trahi, il est calomnié, il est menacé. Moi et mon Dieu. À chaque fois, c'est « Entends mon Dieu, entends ». Et Dieu l'entend. Nous avons prié notre Dieu. Souvenez-vous du Seigneur. Je vous l'ai dit là en bloc. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de Dieu? À chaque fois, il revient vers Dieu. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. C'est la seule fois où il s'est mis un peu en exemple. Et il dit la cause par crainte de Dieu. Pas du tout pour faire bien, mais par crainte de Dieu. Un autre moment, quand il est... Les ennemis essaient de lui demander des entretiens. Descends vers nous, on va discuter ensemble et on essaie de l'embobiner. Il répond, j'ai beaucoup à faire, je ne descendrai pas. J'ai une muraille à construire. Puis il se tourne vers Dieu, donne-moi du courage. Vous voyez cette relation sans arrêt. Hein. Et d'ailleurs j'ai lu, malheureusement c'est pas de moi, j'aurais bien voulu que ce soit de moi, mais c'est pas de moi. Mais ça m'a beaucoup plu quand l'ennemi a cherché à faire descendre Jésus de la croix, ou tout au moins à l'empêcher d'y aller. C'est comme s'il avait répondu, comme Néhémie, je ne descendrai pas vers vous. J'ai un mur à construire. J'ai des vies à construire. J'ai l'humanité à racheter. Je descendrai pas de la croix. J'ai beaucoup aimé cette comparaison. Je vous la livre parce que ça m'a touchée. J'aurais bien voulu la trouver, mais bon. Voilà. Et un autre moment où il va être aussi ferme à cause de sa relation avec Dieu, quand ils vont essayer de le faire entrer dans le temple alors qu'il n'avait pas le droit, en utilisant des faux prophètes, j'aime beaucoup sa réponse. Un homme comme moi prendre la fuite? Alors on pourrait dire, waouh, quel orgueil. Non. Quand il dit ça, il est conscient que c'est Dieu qui l'a appelé. Il est conscient de sa relation avec Dieu et il va pas casser sa relation avec Dieu pour faire plaisir à des faux prophètes. Un homme comme moi prendre la fuite? C'est-à-dire pécher, désobéir à Dieu, me mettre Dieu à dos en quelque sorte? Oh non. Et je me suis posé la question, est-ce que si on était davantage conscient, chacun, de notre appel à être ambassadeur de Christ, et puis bon, tous les autres ministères que Dieu nous donne à côté, mais celui de base, c'est quand même celui-là, hein, est-ce que ce serait pas plus facile de résister aux tentations de Satan, quelles qu'elles soient, distraction, dispersion. Est-ce que ce serait pas plus facile si on était davantage conscient d'être un homme comme moi, qui a un appel? Moi, je trouve que ce serait plus facile de résister si on était bien conscient de dire, ah non, avec ce que le Seigneur me demande, avec la relation que j'ai avec le Seigneur, ah non, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Et c'est mieux que de dire, je ne dois pas, 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 je ne dois pas. Vous savez, c'est l'autosuggestion. C'est pas plus de dire, un homme comme moi, ah non, 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 ah, trop précieux ma relation avec Dieu. Ah non, 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 je veux pas casser ça. Non, non, pas question. Vous voyez? Et je pense que c'est à ça que Dieu nous appelle. Plus qu'à serrer les poings et dire, oh, je désobéirai pas à Dieu, je ferai la volonté de Dieu. Dire, ah non, un homme comme moi. Un être racheté par le sang de Jésus. Qui m'a appelé à être son ambassadeur. Ah non, non, je peux pas lui déplaire, je peux pas lui désobéir. Non, non, je vais pas faire ça. Et c'était la réaction. Un homme comme moi fuir. Non, mais vous imaginez? L'appel que Dieu a mis sur ma vie. Non, mais les gars, pas question. Avec vos fausses prophéties, vous pouvez rentrer chez vous. Non. Vous pouvez pas. Voyez, c'est comme ça que je vois Néhémie, moi. C'est comme ça. Il avait un appel, donc une bonne relation avec Dieu, et la deuxième chose, un appel, une vocation. Il se considérait choisi, appelé, fortifié. Il ne s'est pas laissé balloter par les circonstances de la vie. Vous avez l'impression parfois que vous êtes balloté par les circonstances de la vie. Bah oui, on a tous cette impression par moment, hein. Les oppositions, les difficultés. Alors, raccrochez-vous au fait que Dieu vous a appelé à être ambassadeur de Christ. Et c'est pas la vie qui va vous balloter. Vous êtes appelé pour servir le Seigneur et c'est lui qui va vous servir d'encre, hein. Il va vous laisser sur les rails. Je trouve que Néhémie, l'illustration même du verset qui dit, soumettez-vous à Dieu, hein, ma relation avec Dieu, résistez au diable, on peut dire qu'il l'a fait, à la fois aux menaces, aux moqueries, aux calomnies, etc., tout ce qu'il a vécu, et il fuira loin de vous. C'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de Néhémie. Sa relation avec Dieu, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résister au diable. Il y a des moments, alors ça c'est la partie que j'aime pas. Se soumettre à Dieu, encore on l'aime le Seigneur, il nous a tout donné. Hein, bon, c'est quelquefois un peu dur, mais quand même. Mais résister au diable. Ça veut dire qu'il faut se battre, ça veut dire qu'il faut tenir bon. Oh là là, j'aimerais tellement que la vie chrétienne soit un chemin parsemé de pétales de roses. Il faut résister, il y a des moments, il faut résister, il faut affronter. Il faut être capable de dire au Tobija de notre vie, allez, dehors. Il faut être capable de dire au faux prophète, tu racontes n'importe quoi, là. Non, non, je sais que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut être capable de dire, tu peux toujours y aller avec tes moqueries. J'irai pas vers toi, je continue à construire la muraille que Dieu m'a donné de construire. Ça, c'est résister. Ça, c'est la partie que, bon, voilà, j'aime moins. Mais la bonne partie, c'est il fuira loin de nous. Donc, ça vaut le coup de résister. Il était donc une bonne relation avec Dieu, conscient de son appel. Il faut qu'on soit conscient de notre appel. C'est ça qui va nous permettre de résister à l'ennemi. On est important pour le Seigneur, il nous a donné son appel. Dieu veut faire des tas de choses au travers de nous, on va quand même pas tout gâcher. Alors on va résister, même si on n'en a pas envie. Et puis, deux ou trois petites choses encore, il était engagé de tout son cœur. Il avait une révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et vous savez, le diable, il passe son temps à nous faire croire que Dieu, finalement, il est loin, il s'occupe pas de nous, il nous a oubliés, il est pas si puissant que ça, etc. Non, c'est pour ça qu'on est obligé le dimanche de répéter, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es saint, c'est-à-dire totalement différent de moi. Ensuite, une quatrième qualité, il a su regrouper des hommes autour de lui. Il n'a pas vécu seul dans sa tour d'ivoire. Il n'y serait pas arrivé. Il a su regrouper des hommes fidèles. Et vous vous souvenez ces critères de choix? Je les avais remarqués la semaine dernière. Des hommes supérieurs aux autres. On vous a dit, oh là là, hein, par leur crainte de Dieu. Pas par leur intelligence, pas par leur savoir-faire, mais par leur crainte de Dieu. Et vous savez, plus les années passent, plus je me dis, c'est le critère de base. Pour n'importe quoi. Quelqu'un qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu en sa vie, c'est-à-dire le respect, l'amour pour Dieu, qui connaît son Dieu, même s'il a des défauts, même s'il y a des problèmes, il va toujours revenir à l'obéissance à Dieu. Donc, soyons tous des gens supérieurs. Oui, il faut pas avoir peur. Par la crainte de Dieu. Ça, c'est vraiment mon rêve pour l'Église, pour tous les frères et sœurs qui vont se joindre à cette Église, qu'on soit supérieur par la crainte de Dieu. Non pas dans l'idée d'être supérieur aux autres, mais que notre crainte de Dieu soit belle à voir. Vous savez, moi, dans l'Église, je connais des tas de gens qui ont cette crainte de Dieu et je les admire. Alors, je leur dis pas trop souvent parce que je veux pas non plus leur faire enfler les chevilles, mais ça me fait du bien. Vous savez, quand on est avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Je sais pas pourquoi, mais enfin, moi, je suis comme ça. Et donc, il avait une bonne relation avec Dieu, il était engagé de tout son cœur, il avait une révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu, il a su regrouper des hommes autour de lui. Et malgré la déloyauté des notables qui étaient liés avec ce fameux Tobija, et il y en avait, hélas, ils ont construit les murs avec Néhémie, mais par derrière, ils étaient amis avec Tobija. Néhémie a une qualité énorme qui va nous inspirer tous. Il ne va jamais laisser les racines d'amertume gâcher sa vie. Il a été trahi, il a été trompé, il a été moqué, mais il ne va jamais laisser des racines d'amertume gâcher sa vie et celle des autres. Et c'est Terry Virgo qui a dit cette phrase que j'ai relevée, je n'ai pas très bien traduite, mais « ça peut faire mal, mais nous ne devons pas permettre à notre esprit de sourire. » J'aime bien le mot, de sourire, comme du lait sûr, de tourner. Hein. Ça peut faire mal, mais nous ne devons pas permettre à notre esprit de sourire, donc à cause de la déloyauté des autres. Et quand nous sommes blessés par des gens déloyaux, nous devons nous assurer de construire la prochaine fois avec des gens loyaux, tout simplement. Mais pas laisser notre esprit sourire. On a été trahi, on a été moqué, etc. Il faut pas laisser son esprit sourire. J'aime bien ce mot-là. Vous savez, quand ça devient sûr, c'est pas bon. Comme le lait qui tourne. Bon. Eh ben, on doit pas laisser notre esprit devenir comme ça, même si on a subi des choses difficiles. Et le livre et l'histoire de Néhémie se terminent par sa prière. On aurait pu imaginer toutes sortes de belles prières, mais c'est tout simple, ça vient du cœur. Souviens-toi de moi favorablement, mon Dieu. Et j'aime bien la traduction de, comment il s'appelle là? Shuraki, mon Elohim. Souviens-toi de moi favorablement. On sent que l'histoire de Néhémie, en fait, c'est une histoire d'amour entre lui et Dieu. Et après, avec le peuple de Dieu. C'est pas le peuple de Dieu premier, c'est lui et Dieu, et une histoire d'amour entre lui et le peuple de Dieu. En fait, j'ai remarqué qu'il ne se plaint jamais du peuple. Ça, c'est quelque chose que je crois avoir appris maintenant, ça m'a mis un peu de temps. Ne pas se plaindre de l'Église. Ne pas se plaindre. Parce que c'est une histoire d'amour, en fait, dans les ministères aussi, entre Dieu et nous et le peuple, et Dieu et le peuple. Il ne se plaint jamais, Néhémie. Il fait tout pour protéger ce peuple, pour le faire prospérer et en faire un témoignage de la grâce de Dieu. Et là, je m'adresse à tous ceux qui exercent un ministère dans l'Église, c'est-à-dire beaucoup de gens. C'est notre but, de pas se plaindre, mais tout faire pour protéger l'Église, la faire prospérer et en faire un témoignage de la grâce de Dieu devant les gens qui nous entourent. Ça, c'est la base de tous les ministères. C'est un modèle pour chacun de nous, que ce soit notre appel, que notre vie soit une histoire d'amour entre Dieu et nous, entre les gens que Dieu nous confie, dans notre famille aussi. Ne pas se plaindre de ses enfants. Ça, c'est déjà plus dur, hein. Bon, on est toujours un peu plus exigeant avec ses enfants. Que ce soit vraiment une histoire d'amour entre Dieu et nous, et Dieu et les gens que Dieu nous confie, dans notre famille, notre travail, notre entourage, notre Église, que nous fassions tout pour protéger, faire prospérer et en faire un témoignage de la grâce de Dieu pour les non-croyants qui nous entourent. Pour moi, c'est le message de Néhémie que j'aimerais bien qu'on retienne. Vous avez été très patient.